International Undercast.
International.
Daba International Undercast.
L'info d'en bas, c'est plus faux.
Daba.
Bonjour, bonjour. On est le vendredi 18 mars et nous sommes à Tunis, aux Assises internationales du journalisme. Avec nous aujourd'hui, Chedli Loumi, lanceur d'alerte, militant, tunisien, très actif également en France. Vous avez précédemment travaillé avec Libération, vous avez collaboré avec plusieurs médias, vous avez été animateur, vous allez nous parler un peu de toute cette expérience. Et avec nous également Mustapha Louizi du Maroc, enseignant-chercheur à l'université Sidi Mohamed Ben Abdallah à Fès. Vous êtes également journaliste chez Libération et je pense que vous écrivez aussi plusieurs articles auprès d'autres médias. Et vous êtes également expert en médias et communication.
Merci.
Avec moi, ma collègue Khouloud Ayari, et on va mener cette petite émission. Bonjour à vous.
Bonjour Sarah.
Bonjour.
Bonjour et merci pour l'accueil.
Donc on va commencer avec Mustapha. Vous avez édité récemment, l'année dernière, du coup, votre dernier ouvrage « Communication de crise, crise de communication » autour de la pandémie, du coup de la pandémie à l'infodémie. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus ?
Oui, donc ça fait une année quand même. Je commence à prendre un peu de recul par rapport à ça. Mais ça me travaille encore, il y a des passages, si je veux revenir à mon opus, je vais retracer beaucoup de choses, je vais refaire beaucoup de choses. Une année, ça nous donne une possibilité de revoir certaines choses, pas au niveau de l'analyse, je pense, mais au niveau des faits, parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent en une année, notamment en matière de pandémie. L'idée était venue d'un article parce qu'au début l'opus était un article d'une quinzaine de pages que j'avais travaillé, puis après je me suis dit mais ça mérite d'amples analyses, d'amples lectures. Oui, je me suis dit pourquoi pas, donc on est allé jusqu'à analyser les plans. Donc quelle communication dans une phase de crise, quel mode de communication dans une période très difficile, dans une période où les gens paniquent, dans une période où les gens ont peur, dans une période où les gens commencent à se douter de certaines choses et ils croient plus dans certaines autres choses. Peut-être que c'était aussi ça, la communication, c'était se situer par rapport à un monde en doute, un monde qui commence à revoir les choses d'une autre manière, c'est-à-dire un changement de paradigme axiomatique. Et c'était une occasion de travailler sur la communication publique marocaine. C'est dire qu'on a relevé plusieurs défaillances. Déjà, la question de non-préparation, c'est-à-dire les gens étaient non pas seulement non préparés à l'arrivée du virus, sur le plan communicationnel, mais aussi mal préparé. Mal préparé, c'est mal outillé, c'est ne pas avoir un plan de communication. Comme quoi, un plan de communication, une feuille de route avec laquelle on va trouver des pistes pour communiquer au monde, communiquer aux Marocains, communiquer aux gens qui ne connaissent pas la langue arabe, communiquer aux gens qui ne connaissent pas la langue arabe classique, ni la langue française, et parfois même pas le dialecte marocain, c'est-à-dire des gens, un mazir par exemple, au Maroc, ils devaient recevoir une information. Comment leur transmettre cette information pendant une période de crise, pendant une période de peur? La crise, c'est à elle-même, à elle seule, c'est tout un pan de mon ouvrage. Puis il y a la question de la question soulevée tout à l'heure par notre ami à côté, c'est celle vulgariser notre mode de communication, le rendre plus facile, le rendre plus fluide pour que ça soit une question très attractive par rapport aux gens. Ils doivent vous écouter, les gens, ils doivent vous comprendre et ils doivent réagir par la suite. Ça, c'était la demande sur l'information était très importante. La demande sur l'information était capitale. Et nous, on n'avait pas la possibilité de le faire de telle manière à ce que les gens soient satisfaits.
Est-ce que, dans la période de la crise du Covid, surtout au début, On a remarqué que les médias, ils relaient 24 heures sur 24 les nouvelles du Covid, les nouvelles. Dans toutes les chaînes télévisées, dans toutes les radios, on était au courant du nombre de morts, du nombre de malades, du nombre de lits d'hôpitaux qui n'existent pas, de tous les problèmes. Mais est-ce que c'était possible de communiquer autour d'une pandémie qui est quelque chose de nouveau, mais sans forcément créer cette fatigue, mais aussi ce stress courant? On a vu que beaucoup de gens ont été affectés sur leur psychologie, beaucoup ont dû traiter le fait, en plus qu'on a dû faire des confinements, etc. Mais surtout, les médias sont devenus une source de stress pour beaucoup, en tout cas pour ma part, j'ai remarqué ça dans mon entourage. Mais comment relayer une catastrophe sans forcément créer cette tension, cette pression?
C'est aussi ça, un plan de communication. On ne disait pas tout, c'est sûr. Je suis sûr que les informations étaient distillées. Le rôle des informations était aussi d'apaiser. Et je pense qu'à un certain moment, on n'était pas apaisé par les médias, on était plutôt bombardé par des informations du nombre, les chiffres. Et le chiffre, il est catastrophique toujours. Pourquoi un chiffre est catastrophique? Parce que ce n'est pas analysé. Encore faut-il que le journaliste vulgarise le chiffre, le rend facile à la compréhension. Parce que les gens n'ont pas besoin essentiellement du chiffre. Ils ont besoin essentiellement d'analyser la manière avec laquelle le virus va naître. Il y avait des petites informations à faire circuler de manière simple et fluide sans que le chiffre soit donné quotidiennement de manière brute, sans analyse. En tout cas, au Maroc, on a senti ça. Il y a d'autres pays qui ont analysé les chiffres, mais pas chez nous. Pas chez nous, c'était une défaillance flagrante qui a causé beaucoup de traumatismes psychologiques, oui. Ça ne nous disait pas tout. Pourquoi on ne disait jamais le profil des victimes? Quel est le profil de victime aux États-Unis? Quel est le profil de victime en France, en Espagne, au Maroc? Moi, je pense qu'on ne donnait pas la couleur de peau de quelqu'un qui est mort aux États-Unis. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, on peut avoir la certitude de voir que les pauvres ont été le parent pauvre de la pandémie. Les pauvres, pourquoi les pauvres? Parce qu'ils étaient mal informés, mais aussi mal outillés sur le plan social. Et dire que la communication a un lien essentiel avec le social, a un lien essentiel avec le mode de vie, a un lien essentiel avec ce qu'on vit. On est des êtres humains qui, normalement, on nous disait que c'était les démocraties qui garantissaient une vie un peu appropriée, convenable sur le plan social. Or, la pandémie avait dévoilé ce maquillage politico-politicien, ce qui a rendu la communication comme étant un nouveau maquillage à faire pour dissimuler le profil des victimes et pour dissimuler aussi la crise essentielle, non pas seulement sur le plan de la communication, mais sur le plan de la structure sociale. Nos structures sociales vivent en crise. Il y avait un système qui essayait d'enjoliver la chose, mais on n'a pas pu avec la crise. Avec la crise, c'est venu de manière comme ça, spontanée, parfois oui, à l'improviste, mais généralement, on n'a pas pu voiler cette question de pauvreté. Hein. Au Maroc, on a pu savoir qu'ils sont presque plus de 6 millions à ne pas avoir de quoi manger pendant la pandémie. Voilà un chiffre. Encore faut-il l'analyser sur le plan des politiques publiques. Les politiques publiques qui ont été exercées pendant des années ont mis à part, à la marge, à côté, à l'écart, 6 millions de personnes. C'est quoi ça? C'est simplement les gens qui ne sont pas aptes à se faire, à pouvoir manger à leur faim. Encore faut-il chercher les autres.
Alors, il y a ce chiffre qui est très, très alarmant. Et il y a surtout aussi ce qu'on a beaucoup omis, c'était les facteurs de comorbidité, donc l'état social et puis l'état de santé générale de la population. Et puis qui a fait qu'au final, on s'est rendu compte qu'avec cette crise, c'est une exacerbation finalement des inégalités sociales, économiques, c'est des inégalités spatiales et spatio-temporelles aussi finalement. Et on l'a vu en fonction des régions desquelles on est. on est originaire. Je reviens vers toi, Chadli.
Oui.
De ton côté, tu as été entre la Tunisie et la France. Comment tu as vécu cette pandémie? Comment
oui,
tu l'as
alors,
perçu en tant que lanceur d'alerte aussi?
Voilà. En Tunisie, il faut rappeler quand même, c'est un pays qui a fait une révolution pacifique extraordinaire en 2010-2011. Et qu'on a vécu au début des moments d'espoir terribles, qui ont été bien sûr complètement, détournés, confisqués. Il y a eu des dérives terribles. Donc quand la crise de la Covid-19 est arrivée, les gens étaient déjà au bord tout à fait du désespoir, je dirais, hein. Après des années d'attente, des changements de gouvernement qui n'ont rien apporté, des promesses qui ont des mensonges, et pire que ça, des attentats, etc., des meurtres politiques, etc. Il y avait une perte de confiance dans les pouvoirs publics. Les gens étaient dans la survie quotidienne et donc ne croyaient pas beaucoup à cette pandémie. Les journalistes ont fait un super boulot, les sanitaires étaient sur le front. On a beaucoup de bons médecins en Tunisie, comme toujours. On a formé plein, même en sureffectif. Il y en a qui sont au chômage, il y en a qui partent par centaines, hein, de très très bons médecins, et ça coûte très cher à un pays pauvre qui n'a pas de pétrole, qui n'a pas de ressources, de former donc des cadres sanitaires et autres, hein, et de les lâcher ensuite gratuitement à d'autres pays. Ceci dit, on était arrivé à 25 000 morts, ce qui n'était pas rien, et les gens encore une fois avaient de la peine à être disciplinés, à accepter les mesures. Donc, d'une manière quotidienne, presque, annoncer, exiger, etc. On a essayé beaucoup de méthodes, rien n'avait marché, jusqu'au 25 juillet. Le 25 juillet, ça a été salvateur pour beaucoup de Tunisiens, puisque c'était un régime semi-parlementaire, semi-présidentiel, mais le Parlement avait complètement déraillé par rapport aux objectifs de la révolution des jeunes. Et c'était la crise qui avait fait déborder le vase. Donc si il n'y avait pas eu ce sursaut, on ne sait pas où est-ce qu'on serait devenu. Peut-être une nouvelle Somalie, une nouvelle Syrie. Puisque plusieurs fois, on avait frisé la guerre civile. Donc, entre des gens qui voulaient tous les pouvoirs par tous les moyens et les gens qui voulaient réaliser les objectifs de la révolution. Et là, les pays amis ont construit un pont sanitaire. Chaque jour, des vaccins arrivaient, des bouteilles d'oxygène arrivaient. Et malgré la crise de la santé publique, on a vu les gens se mobiliser et on a sauvé la situation complètement. Et donc là, on arrive, si vous écoutez les statistiques quotidiennes actuelles, à 5 morts. Ce sont des gens qui n'ont pas fait, ce qu'il fallait souvent, qui ont des maladies chroniques. Et jusqu'à maintenant, la faille, c'est que les gens ont refusé la troisième dose. Bon, en France, si vous voulez, c'était pareil, hein. Les médecins, la santé publique n'étaient pas prêts. Ils ne savaient pas quoi faire. Beaucoup de gens ont souffert là-bas. Et puis surtout, alors, ce qui a déstabilisé l'opinion, c'est qu'il y avait plusieurs courants, puisqu'on est en démocratie réelle en France, quand même, malgré tout. Il y a des gens qui s'exprimaient, qui étaient pour ou contre le vaccin, le fameux vaccin. Mais après, on s'est rendu compte qu'il n'y avait que ça comme solution et les gens ont fini par plus ou moins marcher. Mais à chaque coup qu'on libérait, comme aujourd'hui, j'ai entendu en France qu'il y avait, on leur a demandé d'enlever les mesures de prévention et toc, on se retrouve à 100 000 aujourd'hui, personnes atteintes. Et pourquoi on a arrêté? mystère. Il y a les élections qui arrivent, etc. On sait qu'il y a une bonne partie de l'opinion qui est contre pour être contre, par opposition. Donc, parce qu'il y a une perte de confiance aussi, comme en Tunisie. Il y a beaucoup de choses, et surtout de la part des jeunes, je le dis bien. C'est devenu une forme de résistance, pas seulement sanitaire, mais globale.
La gestion de la crise sanitaire l'année dernière et l'année d'avant, ça a été en fait répliquer ce que les Occidentaux font, et on refait ça dans nos pays. C'est-à-dire que l'idée de faire un couvre-feu, dès que la France fait un couvre-feu, nous on fait un couvre-feu. Dès que la France décide de faire un troisième vaccin, nous on fait un troisième vaccin. Donc nous déjà on n'a pas la... Enfin, je pense pas qu'on a une souveraineté sur nos politiques, mais on est... Et le 25 juillet, où Kais Saied a décidé de geler le Parlement, n'a pas été un moment qui a été une solution pour la crise, parce que été 2021, c'était le comble du nombre de morts, le comble de la précarité des pauvres encore plus. Mais je pense que les médias ont aussi relayé l'idée que ce qu'a fait Kais Saied avec le Parlement, que ça a été relayé comme une solution, alors qu'en vrai, ce n'est pas vrai. Mais les médias, ils ont beaucoup influencé aussi ce sentiment de paix vis-à-vis de ce qui se passe, ce sentiment de stress vis-à-vis de ce qui se passe. Donc vraiment, les médias ont joué un rôle très important dans la manipulation de la colère ou de la confiance vis-à-vis des politiques. En tout cas, en Tunisie, depuis 2011, la classe politique, elle a toujours été déconnectée de son peuple. La gauche, la droite, finalement, on n'a jamais réussi à avoir des politiciens qui nous écoutent. Et d'ailleurs, Kais Saied, jusqu'à maintenant, le président, même s'il a gelé, enfin, il a gelé un parlement, mais est-ce qu'actuellement, on n'a aucune visibilité sur ce qu'il est en train de dire, sur ce qu'il est en train de faire. Il fait des conseils et voilà, il sort une décision. Donc, j'ai pas l'impression qu'on est dans la solution post 25 juillet 2021. Donc, ce que je me pose maintenant, actuellement, c'est nous, est-ce qu'on va continuer à gérer la crise avec un effet miroir de l'Europe? Est-ce qu'on est capable de prendre nos propres décisions? Est-ce qu'il y a une visibilité sur ce qui arrive? Je n'ai aucune idée. Mais qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, j'estime qu'on vit dans un monde globalisé. Et vivre dans un monde globalisé exige de nous aussi une certaine prise en conscience de notre liaison et de notre interdépendance avec le reste du monde. Déjà, nous sommes des pays maghrébins qui ne sont pas bien lotis sur le plan sanitaire, sur le plan social. Et nous sommes obligés d'écouter aussi le monde, c'est-à-dire les échos qui viennent d'ailleurs. C'est normal puisque le monde dont on parle, c'est un monde où il y a beaucoup de recherches scientifiques. Et nous, on pâtit, on souffre de ça. La recherche scientifique, c'est aussi une question politique. Ce n'est pas une question de science. C'est une question aussi politico-politicienne. On le sait, chacun pose sur la table des négociations des recherches qui lui sont convenables et qui lui font plaisir au système. Et donc, nous, on essayait d'être au diapason du monde. Et c'était un cas difficile, moi. Je ne reproche pas beaucoup, je ne suis pas très critique au gouvernement maghrébin sur ce plan exact. Pourquoi ? Parce qu'il manquait de visibilité, alors que le manque de visibilité était déjà prévalent dans des pays comme la France, comme l'Allemagne, comme vous le savez, l'Allemagne qui est un pays qu'on donnait comme exemple sur le plan de la gouvernance. Et ils avaient des problèmes extraordinaires lorsqu'on voit combien de personnes sont mortes en Allemagne et combien de personnes sont mortes au Maroc. Je dirais que le Maroc a très bien géré sa crise. Parce que nous, au Maroc, on a une quinzaine de milliers de personnes qui sont mortes. Même pas, hein, ça n'a pas dépassé les 15 000 personnes. Alors, en Tunisie, c'est plus de 25 000. Plus de 25 000. Alors, en Algérie, c'est la même chose. Donc, je dirais que par rapport à l'Allemagne qui a dépassé le cap des 100 000 morts, là, c'est une autre question à discuter.
140 000.
145 000 en France. En Brésil, on ne peut pas donner le chiffre parce qu'à un certain moment, on a arrêté le décompte. C'est dire que le monde avait vécu une crise imprévisible, oui, mais aussi qui avait coûté très cher aux populations sans information, mais aux populations aussi vulnérables sur le plan social. Je voudrais revenir sur ce point parce que quand on sait le profil des victimes, on est en train de travailler non pas seulement un modèle quelconque, mais aussi le système dans toute sa globalité, il était défaillant. Alors, allons-nous dans le sens de la productivité extravagante pour satisfaire nos égos capitalistiques, ou allons-nous concevoir et penser et repenser à notre système qui doit respecter la viabilité humaine d'abord. L'être humain doit être viable, c'est ce qu'on cherche en général. Alors, cette viabilité humaine, elle a été perdue, elle a été égarée au bout de chemin. Pourquoi ? Parce que ces médias dont on parle sont des médias qui sont le porte-parole des grands organismes internationaux. quand vous dites initiation aux médias alternatifs, pour une information libre, transparente et responsable, vous êtes en train de combattre ce système qui a basé et qui a mis en place une certaine vision de ce que cela veut dire une information. Alors là, on a vu qu'il y a eu une transformation de l'information en communication. Il y avait plus de com que d'infos. Et le peuple, moi, ma maman, ne savait pas faire la différence et la distinction entre ce qui relève de l'info et de la com. Mes filles, par exemple, ne pouvaient pas le faire. Et donc, que dire des autres gens du peuple? Parce que le peuple, que veut le peuple? Le veut la facilité au niveau de l'information. Ça a été absent. Pourquoi? Parce que les professeurs présents sur les plateaux, c'était des professeurs qui parlaient un langage scientifique que moi-même, je n'arrivais pas à élucider, à identifier. Quand quelqu'un comme moi qui se dit universitaire et ne peut pas déchiffrer un discours scientifique, comment pour le reste du peuple? Les médias, ils ont aussi opté pour ce qu'on appelle le scoop. Alors que normalement, dans le temps des crises, on oublie les scoops, on oublie la concurrence. On opte pour ce qui est vérifiable, pour ce qui est une information qui apaise, une information qui rend service aux gens. L'être humain doit revenir au centre de la chose publique et au centre de la chose informationnelle. Bah, tant que les médias ne sont pas entre de bonnes mains, ça va être toujours une lutte entre ceux qui initient aux médias alternatifs et ceux qui sont en train de défendre les médias comme leur porte-parole de leurs propres intérêts. Et les propres intérêts, c'est une catégorisation de la société. Et ce n'est plus une question sociale, plutôt sociétale, mais c'est une question qui va répartir le peuple. Et c'est comme ça qu'on a vu au Brésil un peuple qui mourait alors que son gouvernement était en train de parler d'autre chose. Imaginez un président d'État qui ne croyait même pas au coronavirus et qui disait « Son peuple, qu'est-ce que vous faites? Moi, je sors sans bavette. Moi, je ne vais pas faire de vaccin. » Qu'est-ce que vous voulez que le peuple puisse faire? Alors, quand on sait le peuple au Brésil, au Maroc, c'est des gens où il y a beaucoup d'analphabétisme d'abord, où il y a beaucoup un manque flagrant d'éducation à la santé, d'éducation aux médias. L'éducation populaire aux médias, c'est l'une des choses qu'on doit aujourd'hui installer dans nos cursus scolaires. Ah, ce n'est pas encore fait, je ne le vois pas au Maroc, hein, le pays que je connais le plus. Je ne le vois pas encore arriver. Ah, donc, des générations et des générations vont pâtir d'un mode de réception de l'information qui est malaisé, qui est mal vu, et qui va donner des générations et des générations d'ingénieurs, de médecins, soyez ce que vous voulez, mais vous n'allez pas pouvoir déchiffrer une information vérifiable d'une information qui est n'importe quoi, qui est publiée sur vos réseaux sociaux.
En tout cas, le chantier de la mémoire collective autour de la pandémie, autour du Covid, et comment les gens se souviennent en tout cas de la pandémie. Et puis on peut avoir justement des récits mémoriels convergents, mais aussi des récits mémoriels très divergents, parce que les gens l'ont vécu différemment, on a communiqué différemment. Ça n'a pas affecté de la même manière les jeunes que les personnes plus âgées, que les personnes qui vivent dans des endroits reculés. Et je pense qu'on était à un moment donné aussi dans une économie de l'attention, dans une économie de la peur aussi, dans une communication basée sur la psychose et sur la peur et sur l'angoisse. Et je pense qu'il y avait quand même aussi des figures qui prédominaient, notamment alors que ce soit les soignants ou les associations. Il y a eu aussi beaucoup d'élan de solidarité, que ce soit au Maroc, en Tunisie, en Algérie, des solidarités qu'on a vues et puis durant les premières vagues et qu'on a continué de voir juste après. Alors vous êtes tous les deux présents avec nous, que ce soit Monsieur Chedli ou Mustapha, vous êtes présents avec nous aux Assises internationales du journalisme. Aujourd'hui, en tant que journaliste ou ancien journaliste, aujourd'hui à Tunis, aux Assises, à la sortie de cette pandémie, comment vous voyez aujourd'hui le rôle des médias justement et des journalistes indépendants et des médias alternatifs dans cette sortie de crise? Et qu'est-ce qui vous a amené ici justement?
Oui, alors c'est la dimension internationale. Donc chaque fois qu'on se retrouve avec d'autres partenaires, d'autres amis nous, en Tunisie, on change. Quand on est seul, on est mauvais, négatif, improductif, ça tourne vite donc à la confrontation inutile. Parce qu'on est dans une période exceptionnelle de survie, je le dis bien. Hein. Tout le monde est menacé aujourd'hui. Après la Covid, il y a toujours eu des périodes dramatiques dans l'histoire, des pandémies, il y en a eu, etc. Là, on parle de la crise suite à la guerre Ukraine-Russie. Pourquoi ? Parce que la Tunisie n'est pas indépendante au niveau alimentaire. Il y a pas de... Alors que c'était le grenier de Rome, il y avait une autosuffisance. L'agriculture jouait un rôle important. Aujourd'hui, on parle de famine, de menace de famine en Tunisie. Pourquoi ? Parce que le pétrole a augmenté. Ce sont des analyses politiciennes, économistes, je suis d'accord. Mais ça peut être aussi réel, rationnel, parce qu'on n'a jamais rien prévu. Il n'y a jamais eu de politique structurée à long terme dans ce pays. Il y a un État qui a été fondé d'une manière moderniste, aussi bien donc par le parti de Bourguiba, qui avait fait des choses positives mais aussi négatives. Hein. C'était un despotisme éclairé qu'après. Quoi. Il y a eu un coup d'État. Ceux qui ont fondé la Tunisie, ce n'était pas uniquement les militants nationalistes, c'était aussi l'UGTT. C'est le syndicat des travailleurs qui était le refuge de toute l'opposition. Parce qu'il y a eu des répressions, hein, il ne faut pas oublier. Il y a eu donc des alliances conservatrices entre la tendance fasciste du parti de Bourguiba, les intégristes qui avaient été lancés, qui existaient au parti et qui avaient été qu'on a laissé se développer. On a laissé se développer l'obscurantisme, alors que la Tunisie a décollé grâce à l'éducation culture. C'est un pays pauvre, mais qui a mieux réussi que des pays riches. Que la Libye, je peux dire, qui est plus riche. Et la Tunisie a préféré mettre le maximum de ses possibilités dans la formation, dans les ressources humaines.
Mais c'est des choix différents.
Des choix historiques. Et si on a des classes moyennes, c'est grâce à cette politique-là. Et c'est l'alliance entre les classes moyennes et les classes populaires jeunes qui ont fait la révolution. Et aujourd'hui, les classes moyennes sont laminées. Parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de dérives, de trahisons, etc. D'erreurs aussi. Il y a des gens honnêtes qui ont commis des erreurs. De suivisme par rapport à des lobbies internationaux qui ont fait beaucoup de mal. Beaucoup, beaucoup de mal. Et qui continuent à faire beaucoup de mal. Parce que le suivisme aveugle. Et là, on a aujourd'hui, par exemple, 1 million d'abandons scolaires en Tunisie. Ce qui est pour un ancien pédago une catastrophe. Parce que c'est l'avenir qui se joue avec nos enfants. Et les jeunes brillants, diplômés, sont au chômage ou veulent quitter le pays. Parce qu'il n'y a pas de débouchés, il n'y a pas d'emploi. On emprunte pour payer les dettes. Là, la grande solution, c'est le FMI. Et on a vu ce qu'a fait le FMI. En Amérique latine, dans d'autres pays africains, etc. Les émeutes qu'il y a eu quand on était obligé de prendre un couffin de billets pour acheter de quoi manger quotidiennement. On ne veut pas arriver à ça. Le problème, c'est qu'on n'était pas dans une réelle démocratie. Il y a eu beaucoup, beaucoup de propagande, de manipulation. Et là, on veut sortir pour aller vers un véritable état de droit, vers une véritable démocratie égalitaire, participative. Sinon, on ne peut pas s'en sortir complètement. On veut aller vers une autre économie, un autre paradigme, comme le disait si bien mon voisin, une autre grille de lecture, d'autres références, et rester, tout en vivant avec les autres, rester libre et autonome. Ne pas tomber dans un sous-impérialisme, quel qu'il soit. Et malheureusement, le Parlement ancien n'a pas été à la hauteur. Ils ont eu tous les moyens, au-dessus des moyens du pays, pauvres. Mais ils n'ont rien fait comme loi positive pour sortir le peuple de son développement, qui était en situation d'émergence, la Tunisie. Malheureusement, même pendant la période de la dictature, un État voyou, un État policier, tortionnaire, tout ce que vous voulez, il y avait quelque chose qui décollait quand même grâce à la société civile. Ce sont les associations, ce sont les citoyennes, je dis bien les femmes qui ont sauvé. C'est un pays féminin et féministe. Les femmes, les jeunes qui ont sauvé ce pays, qui continueront à le sauver. Et c'est ça l'exception tunisienne. Ce sont leurs femmes. Bon, voilà, excusez-moi d'avoir
merci,
été long.
Merci, merci Chedli. Je cède la parole à Mustapha.
Alors moi, ce qui m'a ramené à Tunis, c'est d'abord une initiative que j'ai commencé à animer avec d'autres personnes, bien évidemment. C'est la question des radios communautaires. Et donc, j'étais dans une dynamique de médias alternatifs. Je cherchais d'autres issues. Après avoir expérimenté les médias publics, j'ai travaillé dans un média public, c'est l'agence MAP au Maroc, pendant une dizaine d'années. Je travaillais dans le journal Libération, c'est un journal partisan d'un parti de gauche marocaine. Et donc, j'ai vu aussi le paysage, la mosaïque médiatique marocaine, comme ça, et donc j'ai pu identifier aussi les failles de tout un système. Nous nous sommes dit, en tant qu'acteurs et actrices associatives au Maroc, pourquoi pas chercher dans des alternatives. Et là, c'était les radios associatives. En 2008, on a commencé les formations avec le FMAS, Forum des Alternatives Maroc. On a commencé les formations, on a commencé par la mise en place de certaines radios. Il y avait au début une seizaine de radios dispersées au Maroc, sur la superficie marocaine. Certaines n'avaient pas beaucoup de durée, certaines autres sont là. Ils continuent à travailler, à militer, à lutter. C'est difficile sur le plan du modèle économique, c'est difficile sur le plan de la viabilité institutionnelle, mais on essaye toujours, et aujourd'hui, tout à l'heure, j'avais un débat sur ça, comment faire durer et perdurer cette initiative tout en mettant en valeur le volontariat comme force de travail.
Justement, le volontariat et la capacité justement des médias alternatifs à pouvoir penser et repenser et construire et co-construire ensemble des modèles économiques qui soient hybrides, qui ne soient pas dépendants des subventions, qui ne soient pas dépendants justement alors des subventions, des financements issus de la coopération internationale, et pouvoir justement proposer des activités qui puissent être génératrices de revenus et assurer leur pérennité.
Voilà Sarah, ma position, elle était claire tout à l'heure. Je disais qu'on n'a pas beaucoup. On n'a pas beaucoup besoin de beaucoup d'argent et des bailleurs de fonds extraordinaires pour installer un système de médiatique alternatif. Il faut qu'il y ait d'abord la base, la plateforme, c'est le volontariat. Ensuite, il faut qu'il y ait des formations continues. Et il faut impliquer des journalistes professionnels. Sur ça, pourquoi ? Parce qu'ils vont nous offrir le côté professionnel, le côté techniciste de la chose. Comment rédiger une information ? Comment parler ? Comment prendre le micro ? C'est des choses très simples, mais qui comptent dans le travail. Parce qu'on veut des médias alternatifs avec une certaine qualité professionnelle. Parce qu'on veut s'approcher des gens. Et c'est ça l'essence. Parce qu'on doit faire revenir. Moi, ce qui m'a ramené ici, c'est comment faire revenir les médias à leur raison première, à leur raison d'être existentialiste. Et là, on va revenir à ce qu'est un média, c'est donner une information en faveur et au service du public, du grand public. Le grand public, c'est lui qui est normalement dépositaire de ma mission en tant que journaliste. Et c'est moi qui dois être son focus. Alors qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a une crise dans le métier. Une crise dans le métier parce que le journaliste, il veut satisfaire d'abord son patron. Et le patron veut d'abord satisfaire l'organisme bailleur de fonds.
Financeur.
Le financeur. Et donc, on est devenu, entre les mains des grands financiers, la com. Et là, une place prépondérante par rapport à l'info. L'info, c'est les facts. Et lorsque l'info, les facts, les faits ne sont pas là, il y a beaucoup d'infos, il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup de commentaires, il y a beaucoup d'opinions. Et ça aide les gens à dire n'importe quoi. Il faut d'abord informer le peuple avant de lui dire quoi que ce soit. L'information, elle est sacrée. Ensuite, le commentaire, il est libre. Mais donnez d'abord l'information comme elle est. Dans sa dans sa virginité la plus absolue. Mais nous, on est en train de désinformer le grand public. Il y a une campagne de désinformation actuellement en guerre entre l'Ukraine et la Russie. Il y a une campagne de désinformation extraordinaire. Les Occidentaux voient d'un seul côté et les Russes voient d'un autre côté. Les journalistes russes ne travaillent pas librement, les journalistes occidentaux non plus.
Ces deux univers mentaux complètement différents,
exact,
et complètement
diamétralement opposés, mais qui ont la même essence, à savoir que le journaliste doit défendre quelqu'un d'autre. Or, le journaliste n'est pas fait pour défendre quelqu'un d'autre. Il est là pour défendre les grandes valeurs démocratiques dont tu as parlé tout à l'heure, Sichet.
Le pluralisme.
Le pluralisme sociétal. Ouais. Nous, aujourd'hui, on ne défend plus ces valeurs démocratiques qui étaient à la base.
La déontologie.
La déontologie du métier.
L'éthique.
Alors, un seul point sur la déontologie et les métiers, pour ne pas être long. La question des deux versions dans l'information aujourd'hui donnée par le monde et l'univers médiatique occidental. Il n'y a pas les deux versions. Il y a simplement trois personnes qui parlent, qui ont la même opinion, le même coup d'œil, la même vision, la même visibilité, et ils parlent de choses parfois qu'ils ne savent pas et dont ils ne sont pas dépositaires. Alors que normalement, il doit y avoir la balance des deux versions. La balance des deux versions, c'est appeler quelqu'un depuis Moscou, par exemple, pour dire son point de vue, comment il voit la chose depuis Moscou. Et c'est ça l'information.
Et nous l'avons vu, d'ailleurs, la voix de la société civile russe et des militants russes n'a pas été très très présente, en tout cas dans les débats autour de la...
On ne les a pas sollicités, à mon avis.
Autour de la crise.
On ne les a pas sollicités parce qu'on craint toujours qu'il y ait une voix dissonante de l'autre côté. Le journalisme à l'occidental craint l'autre voix, craint de leur dire que c'est une question aussi qui vous occupe sur le plan de vos valeurs en tant qu'Européens. Parce que c'est une question fondamentale dans l'esprit européen. C'est qui sommes-nous ? Alors aujourd'hui, l'Européen, il sait très bien qu'il n'est pas quelque chose qui est indépendante. L'entité indépendante n'existe pas en Europe. Et ça dérange l'esprit et la raison européenne. Et c'est pourquoi les Américains font ce qu'ils veulent dans le monde.
Merci Mustapha.
Merci à vous pour
Merci
ce débat Chérie. Très très...
On conclut ce débat et je garde vraiment une notion. Alors la notion avec laquelle on va clôturer, c'est la notion du bénévolat, du volontariat.
Absolument.
Qui est clairement
et
un gage...
solidarité.
Et de solidarité, ouais. Qui est clairement le gage de voie libre et pour une information en tout cas libre et transparente
fait.
Et indépendante.
Exactement.
Merci à vous. Merci Khouloud. Et on clôture cette session.
Merci à votre équipe.
Merci à vous. Merci à vous.
Et bonne continuation.
Africanité plurielle. Aroug Efrikia. Rencontre. Rencontre. Broka Lametna. Résilience, une parole libérée pour raconter une autre histoire, pour raconter des histoires. Tawa, une revanche de la mémoire et des mémoires. Transition. Jina houni nahkiou qassa okhra. Barcha qassas.